Bien, il est l'heure. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette reprise. J'ai modifié par rapport aux années précédentes les horaires et j'avais peur que, venant par la force de l'habitude, les gens venaient plus sur 11h30 que 11h, d'autant plus qu'il y avait eu des cafouillages successifs sur l'affichage du collège, mais votre nombre me rassure. Donc, je vais vous donner le programme, parce qu'il n'est pas affiché, du séminaire de cette année. Donc, nous allons voir tout de suite M. Jean-Pierre Fulu, dont je ferai la présentation, comme il se doit. Nous aurons la semaine prochaine M. Mathieu Ray, qui nous parlera de la Syrie. Le 29, normalement, nous avons M. Hamid Bozarslan, qui parlera certainement des Kurdes. Le 6 décembre, ce sera M. Nabil Mouline. Nous n'avons pas encore fixé le sujet, mais je pense que ça tournera sur l'islam contemporain ou le califat, puisqu'il a commis récemment d'excellents ouvrages sur ce sujet. Le 13 décembre, ce sera M. Bernard Rougier, qui est à Paris 3, qui est aussi un collègue pour lequel j'ai la plus grande estime. Et last but not least, le 20 décembre, M. Eberhard Kinley. Je suis désolé parce que cette année, je n'ai aucun intervenant féminin, ce qui est un scandale absolu, dont j'espère que vous préparez la lapidation des coupables, comme il se doit. Dans le monde d'aujourd'hui. Donc, M. Jean-Pierre Fulu, qui est actuellement professeur à Sciences Po Paris, me fait le grand honneur de venir à mon séminaire. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois, je crois, sur le format de Marguerite de Navarre. M. Fulu a eu plusieurs vies, ou à la fois dans la continuité, dans la simultanéité, puisqu'il a été un humanitaire avec un H majuscule, il a été représentant de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban au moment du conflit de la guerre civile libanaise, ce qui lui a évidemment donné une expérience certainement très douloureuse, mais de grande, de première main de ses affaires. Il a été diplomate en passant par la voie noble des concours, donc avec des fonctions de consul général, de premier conseiller dans des grandes ambassades, et puis surtout, il a été deux fois membre conseiller diplomatique dans des cabinets ministériels de haut niveau à des périodes tout à fait importantes de l'histoire de la région. Et puis, il a décidé de redevenir chercheur parce qu'il l'était à l'origine. Et donc, en utilisant quelques passerelles, il a pris tous les sacrements universitaires nécessaires dans une succession d'épreuves. Et donc, une fois qu'il a eu tous les titres requis, il a été évidemment recruté à titre permanent à l'Institut d'études politiques de Paris, et il enseigne aussi à la Paris School of International Affairs, qui est une subdivision de l'IEP de Paris, bien que moi j'appelle ça Paris Texas, mais ça c'est une autre histoire. J'ai dit plusieurs vies parce que d'une part il s'est juré de me dépasser en nombre de publications, et comme il avait beaucoup de retard, il a mis des bouchées doubles et triple, avec des livres excellents, comme en particulier son Apocalypse dans l'islam. Okay. Et il a aussi écrit des livres sur l'histoire musicale, donc en particulier un livre sur Jimi Hendrix. Et il est aussi parolier, puisqu'il a fait des textes de chansons engagées qui ont été pris par de grands groupes. Et enfin, il est scénariste de bande dessinée, donc il y a de quoi être parfaitement jaloux de lui. Et donc je vais lui céder la parole parce qu'il va évoquer son livre récent sur Damas dans un parcours historique. Jean-Pierre, c'est à toi.
Merci beaucoup, monsieur le professeur, cher Henri. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus aussi nombreux. Je suis très heureux, très honoré d'intervenir une fois encore dans ce séminaire. Je considère Henri Laurence comme un de mes deux maîtres en histoire, l'autre étant Jean-Noël Jeannet, sous la direction de qui j'avais soutenu ma thèse de doctorat. C'est toujours une émotion d'intervenir dans un lieu aussi marqué d'histoire, aussi noble. On se demande comment on va pouvoir relever le défi, d'autant que j'ouvre une séquence qui va être en tout point brillante et je vais m'efforcer d'être à la hauteur de ces différents intervenants comme de mon hôte et de vos attentes. Le miroir de Damas que j'ai publié au printemps dernier marquait pour moi une rupture avec ce qui est mon cœur de métier, qui est l'histoire contemporaine, voire très contemporaine. Je me suis efforcé, avec beaucoup d'autres, et sûrement bien moins bien qu'eux, de développer des instruments permettant d'appréhender cette histoire très contemporaine dans sa diversité, surtout avec ses matériaux les plus nouveaux. Je pense évidemment aux réseaux sociaux, aux sites Facebook, etc. Et le prochain livre que je publierai en janvier prochain, « Généraux, gangsters et djihadistes », s'efforce de prendre les appareils de répression dans le monde arabe au pied de la lettre, c'est-à-dire très souvent sur leur page Facebook, parce qu'il faut savoir que les bourreaux communiquent beaucoup, et pas uniquement les djihadistes. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de ce livre qui m'a vraiment habité, « Le miroir de Damas », et qui est né à la fois d'une très grande douleur, la douleur de voir ce pays détruit, un pays auquel je suis avec beaucoup d'autres très très attachés pour avoir vécu de longues années, pour y avoir séjourné une vingtaine de fois, la dernière fois dans Alep en guerre, mais aussi parce que comme historien, il est incontestable que le rapport des Syriennes et des Syriens à leur propre histoire, ce rapport qu'une collègue a fort pertinemment qualifié d'organique, ne peut que toucher au plus profond de nous-mêmes. Et ce livre était à la fois un livre d'hommage à ces Syriennes et à ces Syriens, mais en même temps une tentative de reprendre l'histoire des mains des bourreaux. Car trop souvent, on leur a fait l'honneur indigne de les présenter comme étant les manifestations contemporaines d'une histoire immémoriale, alors que leur barbarie est très très moderne et ne peut s'appuyer ni se justifier sur aucune des grandes figures qu'ils invoquent, que ce soit les califes pour Daesh et le sinistre Baghdadi ou Saladin pour Assad père ou Assad fils. Donc retrouver le temps long de cette histoire, c'était aussi remettre le peuple syrien au cœur de son histoire, projet dont vous voyez l'ambition. Je ne prétends pas l'avoir pleinement réalisé, mais c'était en tout cas ce qui m'animait. Et pour le remettre au cœur de son histoire, revenir aux sources, revenir aux racines, donc remonter sur des millénaires, et en tout cas sur des siècles, pour décrire comment cette Syrie a émergé. Et pour faire très simple, avant de revenir à une période plus proche de nous, on voit bien que, sans pousser trop loin, la théorie des climats chère à Montesquieu, mais il y a en Syrie une question d'environnement au pluriel. parce que ces environnements sont pluriels. Et que ce Moyen-Orient, largement berceau de notre civilisation, il a la vallée du Nil, la Mésopotamie, et au cœur, il a cette Syrie, ce que les Arabes, mais aussi les Turcs, appellent le pays de Cham, Cham étant en arabe comme en turc la ville de Damas. Et on voit que depuis, je n'ose dire la nuit des temps, il faut être modeste, mais en Mésopotamie et dans la vallée du Nil, le défi de l'allocation de la ressource rare par excellence qu'est l'eau a permis la mise en place de systèmes autoritaires, voire totalitaires, et, excusez-moi la métaphore un peu lourde, pyramidaux, avec des despotes dominant un peuple qui était redevable à ce despote de sa propre survie. En Syrie, rien de tout cela, parce que la Syrie n'a pas cette centralité d'une voie d'eau sur laquelle se construisent de tels empires. En Syrie, on a une diversité très poussée des environnements. Si on prend de la côte méditerranéenne jusqu'à la vallée de l'Euphrate, on a la plaine côtière, qui est assez limitée en profondeur. On a une première chaîne littorale, très escarpée, pas trop élevée, mais avec des refuges possibles pour différentes populations persécutées. On a la vallée de l'Oronte avec Hama. On a les oasis que sont Alep au nord, Damas au sud. On a les plateaux, plateaux calcaires, plateaux basaltiques, qui aussi ont fonction de refuge, hein, que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui le Jebel Druze, la montagne des Druzes, hein, le massif calcaire à côté d'Alep. Et puis on a le désert, la palmyréenne. On a la vallée de l'Euphrate, et après, jusque dans ce qu'on appelle le bec de canard, ce point, ce triangle qui est fiché entre les territoires actuels de la Turquie et de l'Irak, aussi une autre très grande diversité de populations. Et cet environnement aussi contrasté va d'une part jouer en défaveur de l'établissement de systèmes monolithiques, pyramidaux, comme ceux de la vallée du Nil et de la Mésopotamie, et en même temps en faveur de l'accueil successif de différentes minorités. Et ces minorités, elles vont faire souche, et parfois même, c'est en Syrie qu'elles vont se découvrir et s'affirmer. Je ne peux qu'évoquer dans mon livre le fameux chemin de Damas de Saoul devenu Paul, du fait de l'illumination qu'il a frappé avant d'arriver dans cette ville de Syrie où il était censé persécuter les chrétiens et où en fait il va s'immerger au milieu d'eux. Mais peut-être plus important encore pour la chrétienté, le fait que c'est à Antioche. Ne jamais oublier qu'Antioche, c'est la Syrie, quelles que soient les tractations entre 1936 et 1939 de la République française avec la République turque. Antioche, on le sait, c'est d'ailleurs été longtemps la capitale de la province romaine de Syrie, et Antioche pour la chrétienté d'Orient. Je signale l'exposition extraordinaire qu'on peut toujours voir à l'Institut du monde arabe. C'est non seulement le titre de la plupart des patriarches, patriarches d'Antioche et de tout l'Orient, mais c'est aussi la ville où, pour la première fois, on appelait les chrétiens des chrétiens. Parce que c'est la ville où, du fait de la querelle fameuse entre Pierre et Paul, c'est la ville où Paul a mis en avant la seule vertu du baptême et a ainsi rompu les liens avec la synagogue. Et donc, sur cette terre de Syrie, on va avoir toute une série de querelles liturgiques, dogmatiques, théologiques qui vont amener à l'émergence des différentes églises dites d'Orient, et beaucoup plus tard, pratiquement un millénaire plus tard, on aura le retour de l'Église catholique par le biais des missions, et souvent dans l'environnement des consulats français, avec deux nouvelles scissions qui amèneront des églises catholiques au sein même de ces églises d'Orient. D'où aujourd'hui une douzaine d'églises officiellement recensées en Syrie, sans compter les dominations protestantes. Donc déjà, toute la diversité de la chrétienté, très souvent mal perçue, y compris par ceux qui se prétendent les amis ou les défenseurs de cette chrétienté. Et puis on a toutes les minorités de l'islam. Parce que c'est à Damas que s'est établi en 661 le premier empire de l'islam, par une ruse de l'histoire tout à fait fascinante, qui fait de la famille des Omeyyades, celle qui avait lutté le plus intensément, le plus violemment contre la prédication du prophète Mohammed, qui fait de cette famille la détentrice du califat et qui va déposséder la famille du prophète Mohammed au profit de la mise en place de sa propre succession dynastique. Donc la famille qui a le plus combattu l'islam devient la première dynastie de l'islam et elle le devient à Damas. Et ce choix de Damas n'est pas indifférent, là encore, dans la guerre civile qui a déchiré l'islam entre 656 et 661, donc avant la victoire des Omeyyades, on voit bien que les deux branches irakiennes et égyptiennes soit avaient collaboré pour mettre à mort le précédent calife à Médine, soit avaient œuvré contre cette victoire des Omeyyades, qui, elle, n'a pu se faire que parce que les Omeyyades se sont coulés littéralement dans le moule byzantin. Que ce soit l'invention, qui n'est jamais qu'une adaptation, qu'une transmission du minbar, donc de la chair, qui correspond à la chair de la prière dominicale, que ce soit l'institution du vendredi, en regard du dimanche chrétien, ou que ce soit tout simplement la sédimentation monumentale qu'on voit particulièrement bien dans la mosquée des Omeyyades de Damas, qui était initialement le sanctuaire où la tête de Jean-Baptiste était révérée. Jean-Baptiste va devenir un prophète dans l'islam, Yahya, et pendant longtemps, le site sera fréquenté aussi bien par des fidèles musulmans que chrétiens. Il ne faut pas idéaliser cette coexistence, mais il ne faut pas non plus la nier. Il ne faut surtout pas ignorer cette transmission, cette islamisation de ce qui était la Syrie chrétienne sous les Omeyyades. Et puis, aujourd'hui, on ne peut plus parler du Moyen-Orient sans se voir assénés sunnites et chiites comme alpha et oméga de toute forme d'interprétation et d'explication. Mais l'islam est beaucoup plus complexe et riche que cela. Et même les sunnites et les chiites cohabitent dans l'islam avec d'autres familles qui ne sont pas des dissidences des uns ou des autres, qui sont des familles à part entière. Et la plupart de ces familles se sont développées, ont prospéré et surtout se sont réfugiées en Syrie. Que ce soit les Ismaéliens, qui eux précèdent les chiites proprement dit, qui vont prêcher à partir du désert de Palmyre et très précisément de la ville de Salamiyya à la fin du IXe siècle en annonçant le retour du Mahdi, le bien dirigé, celui qui va restaurer la justice à la fin des temps, et c'est de Syrie qu'ils iront conquérir la Tunisie, puis l'Égypte, pour y fonder Al-Qahira, la victorieuse, le Caire. Mais c'est aussi en Syrie que vont, au Xe siècle, s'installer les Alaouites, qui ont émergé dans des circonstances obscures, mais qui sont sans doute rattachés à la prédication du Xe imam Ali, et qui vont faire souche dans cette chaîne côtière qui plus tard va prendre leur nom de montagne alaouite. Et c'est aussi en Syrie que vont se réfugier les disciples du calife Hakim, le calife scandaleux du début du XIe siècle, qui au Caire a multiplié les diktats, les foukades, au point que ses partisans ont cru voir dans un tel arbitraire une vision divine. Et donc, justement, lui aussi, le Mahdi, à sa mort, ses disciples qui avaient été organisés par un scribe nommé Darazi vont prendre le nom de Druze et vont s'installer très largement en Syrie. Donc j'insiste là-dessus parce que on a en Syrie toutes ces minorités et au fond la Syrie n'est qu'un pays de minorités. Donc si on voulait vraiment défendre les minorités et non pas choisir son camp, on devrait défendre toutes les Syriennes et tous les Syriens parce qu'ils sont tous des minorités ou des minoritaires à un moment ou à un autre dans un contexte particulier. Je n'ai mentionné que les minorités religieuses. Mais il y a les minorités linguistiques. Il y a les Assyriens qui parlent araméen, il y a les Kurdes qui parlent kurde, il y a les Tcherkesses, les Tchétchènes, les Turkmènes, hein, chacun avec une existence et une identité ethno-linguistique. Et tout ça s'est étalé au fil des siècles. Les derniers arrivants ayant été... si j'ose dire, les musulmans du Caucase, qui, expulsés par l'Empire russe, vont, sous la protection du sultan ottoman, faire souche, généralement le long de la voie du pèlerinage de la Mecque et de Médine, et donc en Syrie, essentiellement dans le Horan, au pied du Golan, aujourd'hui occupé par Israël. Et puis on a, au début du siècle dernier, les rescapés du génocide arménien. Il y avait déjà des communautés arméniennes importantes à Damas, à Alep, à Hama, à Dresor, ville dont on redécouvre l'existence à la faveur d'une boucherie récente. Mais en Syrie, il y avait eu à la fois l'horreur du génocide avec les caravanes de la mort, généralement le nom de la vallée de l'Euphrate, où les Arméniens étaient exterminés moins par la violence directe que par les épidémies ou par la faim. Et il y avait des marchés aux esclaves. Il y avait des marchés aux esclaves arméniens dans la banlieue d'Alep, entre autres. Mais il y avait aussi des réseaux de sauvetage. Et les Arméniens savent bien qu'ils portent dans leur cœur une grande tendresse à l'égard de la Syrie, que ce pays a accueilli ceux qui pouvaient l'être. Donc aujourd'hui, on est confronté à une barbarie sans nom, mais qu'aucun de ces barbares ne se prétende héritier de cette histoire, ni ne se prétende protecteur des minorités, car il n'en est que le fossoyeur à partir du moment où il est le fossoyeur de cette Syrie qui avait tant préservé les minorités. Et autre chose, toujours mettre en garde, toujours, parce que moi en France, où nous avons un peu trop souvent joué avec le feu colonial pour trouver un grand attrait aujourd'hui au redécoupage des frontières, mais écoutez tous les apprentis sorciers qui vous disent quand même le Moyen-Orient, la Syrie, ça irait tellement mieux si on divisait un peu, si on mettait les uns avec les autres. J'ai entendu ce discours-là au Liban quand j'étais, Henri le rappelait, délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme, quand j'ai vu les massacres du Chouf, quand on a expulsé les chrétiens qui vivaient depuis des siècles dans le Chouf, est-ce que ça a ramené la paix? Est-ce que ça a ralenti la guerre? Bien sûr que non. Donc ne jamais écouter ceux qui prétendent que si on met les uns avec les autres, eh bien on arrivera à la paix, bien au contraire. Mais pour reprendre cette histoire, je vais... revenir à avant-hier, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, pour voir comment les jeux des puissances vont justement, de façon répétée, de façon implacable, avec un aveuglement qui force parfois le respect devant tant d'inconséquences, prétendre agir pour les minorités et à chaque fois creuser leur tombeau. Et je commencerai par un crime très moderne, un crime de sang. Ce crime de sang, il éclate en février 1840. Dans Damas, qui est à cette époque sous le contrôle des Égyptiens, Mohamed Ali et son fils Ibrahim se sont emparés de la Syrie contre les Ottomans en 1831, et la France est pleinement engagée aux côtés de cette puissance, selon elle, montante, ce qui fait que, presque mécaniquement, Henri Laurens a des travaux tout à fait indépassables à ce sujet, la question d'Orient va être une mécanique où les populations locales vont être attirées, voire broyées, au nom de la rivalité entre les grandes puissances. Et donc, il ne faut pas idéaliser la situation des Juifs en Syrie, mais là encore, il ne faut pas non plus la noircir. Il ne faut pas oublier que, après la chute de Grenade, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc des Juifs séfarades, la Syrie, Alep encore plus que Damas, va être elle aussi une terre de refuge. De même que dans la vieille ville de Damas, il y a toujours un quartier des Juifs, Haret el-Yahoud, entre la Via Recta et Bab Kaysan, la porte le long de laquelle Saint Paul était censé avoir descendu dans son panier pour échapper aux persécutions. La réalité fut sans doute moins rocambolesque. Toujours est-il qu'en février 1840, dans cette Syrie, il y a pu y avoir des persécutions contre les Juifs, surtout dans les périodes de troubles, quand les minorités sont souvent à la fois les plus fragiles, mais aussi celles, et nous allons le voir juste après avec les chrétiens, sur lesquelles on se concentre pour ne pas défier le pouvoir, mais pour montrer au pouvoir que s'il ne peut pas protéger ses minorités, alors il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Donc, en février 1840, le consul de France à Damas enquête sur la disparition d'un moine capucin, le père Thomas, qui a été placé sous la protection française par les capitulations qui font que les ordres religieux sont aussi protégés par les diplomates. Et ce consul va reprendre la rumeur publique. Le disparu aurait été assassiné par un groupe de juifs afin de mêler son sang au pain azim de la Pâque. Ce type d'accusation avait disparu d'Europe depuis le Moyen-Âge, mais il était toujours en vogue dans la Russie tsariste. Il est possible que des Grecs orthodoxes, plus ou moins influencés par la Troisième Rome, aient favorisé la diffusion de ce type d'accusation en Syrie. Le gouverneur de Damas, qui ne peut rien refuser à la France, ferme soutien de Mohamed Ali et d'Ibrahim, fait arrêter les suspects, dont deux décèdent sous la torture, sans pour autant que la moindre preuve ne soit recueillie. L'Autriche se saisit du dossier et le chancelier Metternich lui-même intervient pour que cessent les tortures. Il faut pourtant attendre, un peu plus tard, en 1840-1841, la restauration de l'autorité ottomane en Syrie pour que l'innocence des Juifs de Damas soit officiellement proclamée. Notre collègue et historienne Rina Cohen souligne à juste titre que, je cite, « l'affaire de Damas est un brouillon de l'affaire Dreyfus ». Fin de citation. La calomnie érigée en raison d'État et l'écho déformant de la presse sont déjà là. On ne s'étonnera donc pas de lire le très anti-Dreyfusard Maurice Barrès relayer les accusations de 1840 lors de son voyage de 1914 en Syrie en qualité de député. Tel je vois ce lieu, tel il était ce soir de février où le père Thomas y fut attiré, immédiatement saisi, ligoté, saigné par 9 juifs qui recueillirent son sang dans une bassine pour le mettre ensuite en bouteille. Fin de la citation, ça date de 1914. Le régime Assad à l'antisémitisme lui aussi très moderne, notamment dans la protection accordée à d'anciens nazis, continuera de perpétuer les accusations de crimes rituels. Mustafa Atlas, ministre de la Défense de Hafez al-Assad puis de Bachar de 1972 à 2004, dirige une maison d'édition où il publiera en 1987 l'Azim de Sion, consacré au supposé crime de 1840, avec traduction française en 1990. Il en conclut la préface par cette algarade, je cite, « La peur, ô lâche, est indigne de nous, car elle est, comme le dit le maître du siècle et des générations à venir, Hafez al-Assad, une arme supplémentaire fournie à l'ennemi. » Fin de citation. Mustapha Atlas est mort récemment dans son lit et à Paris. Maintenant, après ce crime de 1840, crime de sang, dont on voit l'importance symbolique, nous allons nous pencher sur un événement beaucoup plus sanglant encore, celui des émeutes antichrétiennes de 1860 à Damas. Mais pour cela, il faut revenir sur la figure de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a mené de 1832 à 1847 un djihad de résistance à l'expansion coloniale de la France en Algérie. Tout comme les chefs mystiques de Damas au temps des croisades, Abdelkader mène de front ce djihad mineur de la lutte armée et le djihad majeur de la quête spirituelle. Vaincu par les Français, il est interné à Toulon, puis à Pau, enfin à Amboise, malgré les garanties de liberté transmises avant sa reddition. Durant cette captivité de fait, il se plonge dans les œuvres de Mohyeddin Arabi, 1165-1240, notamment les Illuminations de la Mecque, le Futuhat al-Makkiya. Ibn Arabi est appelé avec respect le plus grand des cheikhs, Cheikh al-Akbar. Né à Mursi, formé à Séville, il parcourt tous les pays d'Orient avant de résider à Damas les 15 dernières années de sa vie. Sa tombe est l'objet d'une vénération particulière dans le quartier de Muhajiroun Salihiyah. Le premier sultan ottoman à s'emparer de Damas, Selim, y a fait construire en 1518 une élégante mosquée sur le mausolée d'Ibn Arabi. Abdelkader noue à Amboise une relation durable avec un interprète militaire, Ismaïl Urbain. Ce parfait arabisant, petit-fils d'une esclave noire de la Guyane, chrétien et saint-simonien, quelle belle époque où on pouvait être et, s'est converti à l'islam à 23 ans en Égypte. C'est lui qui accompagne Abdelkader aux Tuileries en décembre 1852 pour participer aux cérémonies de restauration de l'Empire. L'émir algérien est autorisé par Napoléon III à quitter la France pour l'Orient. Abdelkader s'engage solennellement à ne plus retourner en Algérie. Il tiendra sa parole, même quand Bismarck lui proposera de revenir en 1871, au moment de la défaite face à la Prusse. Reçu par le sultan à Constantinople en janvier 1853, Abdelkader s'installe peu après dans la ville de Brousse-Boursa. Le séisme qui frappe la ville en février 1855, mais surtout la volonté de se rapprocher de la dernière demeure d'Ibn Arabi, pousse Abdelkader à demander à résider à Damas. Toujours soucieux de la parole donnée, il ne manque pas, en septembre, de solliciter l'aval de Napoléon III à la faveur d'une visite à l'Exposition universelle de Paris. C'est fort de l'accord impérial qu'Abdelkader et sa suite sont accueillis à Damas en décembre. L'émir algérien s'installe dans la vieille ville, au nord de la mosquée des Omeyyades. Sa bibliothèque, qu'il ne cesse d'enrichir, est son bien le plus précieux. Il rédige d'ailleurs, en 1855, une épître aux Français où il affirme, je cite, « Les habitants de la France sont devenus un modèle pour tous les hommes dans le domaine des sciences et du savoir ». Fin de citation. Le chef vaincu de la résistance algérienne devient ainsi un fidèle partenaire de la France en Syrie. La tradition d'émigration maghrébine à Damas est ancienne. La renaissance d'un pouvoir omeyyade en Andalousie ou la participation de contingents nord-africains à la contre-croisade ont joué dans ce processus où on peut citer le voyageur Ibn Battuta, l'encyclopédiste Ibn Khaldoun. Quant à Ibn Arabi, il est associé à l'Occident de l'islam avant d'avoir parcouru son Orient. C'est au Mont Liban qu'éclate en 1860 un nouvel épisode sanglant de la question d'Orient. Le Mont Liban se déchire entre paysans maronites, majoritaires et dynamiques, et féodaux druzes, inquiets de la militarisation et de l'expansion de leurs voisins chrétiens. La Grande-Bretagne, qui ne peut arguer, à la différence de la France, de droit, entre guillemets, parce que c'est généralement un droit assez unilatéral, de protection d'une minorité confessionnelle, la Grande-Bretagne donc joue la carte druze pour étendre son influence. Les responsables ottomans sur place soutiennent passivement ou activement la sanglante campagne druze de mai-juin 1860. Des milliers de chrétiens sont massacrés, des dizaines de villages anéantis au Liban. Le drapeau français qui flotte sur les implantations religieuses est maintes fois souillé, notamment à Deir el-Kamar. La sublime porte décide de frapper fort pour dissuader Paris de toute intervention. Elle dépêche un puissant corps expéditionnaire au Liban et elle y mandate Fouad Pacha, ministre des Affaires étrangères, avec le plein pouvoir. Cette ferme réaction de Constantinople va relancer la crise, cette fois à Damas. Comme à Alep 10 ans plus tôt, mais sur une bien plus grande échelle, des émeutiers s'attaquent aux chrétiens pour mieux défier le pouvoir ottoman. La collusion entre la Sublime Porte et les puissances dites chrétiennes est dénoncée. Le gouverneur Ahmed Pacha, peut-être pour détourner de lui la colère populaire, laisse faire les émeutiers entre le 9 et le 16 juillet 1860. Le bilan avancé d'au moins 6 000 morts dans ces massacres ne rend pas compte des viols, des pillages et des destructions. Tous les consulats sont saccagés, à l'exception de la légation britannique. Le carnage aurait pu être encore pire si Abdelkader n'avait pas, dès les premières heures, ouvert sa maison aux chrétiens en fuite. Les consuls de France, de Grèce et de Russie lui doivent la vie, ainsi que de nombreux religieux. Il envoie les centaines d'Algériens qui lui sont fidèles, ce qu'on appelle de manière respectueuse la Smala, rechercher des rescapés dans les rues de Damas pour les ramener sous sa protection. L'émir sort lui-même à 7 reprises pour sauver qui peut encore l'être. Il force Ahmed Pacha à accueillir dans l'enceinte de la citadelle des milliers de survivants. Les témoignages sur l'héroïsme d'Abdelkader sont largement diffusés à Paris. Pour ce prêtre catholique, je cite, « Au moment du carnage le plus affreux, Abdelkader se montra dans les rues comme une providence. » Fin de la citation. Pour ce médecin français, je cite, « Dans cette attente de la mort, dans ces moments d'angoisse indescriptible, le ciel nous envoya pourtant un sauveur. » Abdelkader parut, entouré de ses Algériens au nombre d'une quarantaine. Il était à cheval et sans armes. Sa belle figure, calme et imposante, offrait un étrange contraste avec le bruit et le désordre qui régnaient de toutes parts. Fin de la citation. Les sanctions ottomanes s'abattent sur les fauteurs de troubles et leurs complices dans l'administration. Fouad Pacha s'installe à Damas, aidé par Ahmed Pacha, qui est fusillé avec une centaine d'autres condamnés. 57 personnes sont pendues dans des gibets, à des gibets hissés dans toute la ville. Le quartier de Kanawat, les canalisations, épicentre des émeutes, est vidé de ses habitants turcs pour être offert aux réfugiés chrétiens. Des milliers de suspects sont incorporés de force dans l'armée ottomane. Il en faudrait plus pour apaiser une presse française chauffée à blanc. Melchior de Voguet s'indigne ainsi dans Le Correspondant, je cite, « Nous nous trouvons en présence d'une vaste conspiration musulmane dont le centre est à la Mecque ou ailleurs, dont le but est l'extermination des chrétiens orientaux et que le gouvernement ottoman autorise et exploite dans l'intérêt de ses desseins secrets. » Napoléon III obtient l'envoi à Beyrouth en août 1860 d'un contingent dirigé par le général Beaufort d'Hautpoule. Cette expédition, négociée pied à pied avec Londres et Constantinople, va être contenue par Fouad Pacha à la périphérie libanaise. Le ministre français de la guerre interroge alors Beaufort sur l'intérêt de promouvoir Abdelkader à la tête de la Syrie. Le général, tout en étant soucieux de préserver l'autonomie des chrétiens du Liban, reconnaît que depuis Damas, je cite, l'autorité d'Abdelkader pourrait s'étendre sur Alep et sur une partie du nord de la Syrie et former ainsi le noyau d'un empire arabe qui pourrait s'étendre successivement vers Bagdad et Bassora. Fin de la citation. Il manque cependant à cette grandiose vision le consentement d'Abdelkader, qui accepte avec gratitude la Grand Croix de la Légion d'honneur en septembre 1860, mais refuse d'entrer dans les visées françaises. L'émir algérien retourne à Paris en juillet 1865. Il y retrouve Ismaïl Urbain qui lui offre cette fois de diriger en Syrie, je cite, un État arabe indépendant. Fin de la citation. Abdelkader demeure catégorique dans son refus, rappelant qu'il a abandonné toute ambition politique en déposant les armes en 1847. Le nom d'Abdelkader associé à un éventuel royaume arabe continue pourtant de circuler et, comme je vous l'ai dit, il repoussera en mars 1871 les offres que lui fait Bismarck de favoriser un retour triomphal dans l'Algérie, alors secouée par une terrible insurrection. C'est le grand djihad, le djihad spirituel, qui absorbe désormais Abdelkader. À sa mort en 1883, l'émir est enterré auprès de son maître spirituel, Ibn Arabi. Ses restes mortels seront ramenés en grande pompe dans l'Algérie indépendante pour son 4e anniversaire de l'indépendance en juillet 1966. On aura donc vu une question d'Orient dont l'habillage diplomatique des rivalités de puissance ne limite pas les débordements ravageurs pour les populations concernées. Du scandale antisémite de 1840 à Damas, au massacre anti-chrétien de 1860 dans cette même ville, les consuls européens ont prouvé leur incapacité à sauver leurs soi-disant protégés de la torture et de la mort. Les emballements parisiens contre ce que Voguet appelle la conspiration musulmane ne sauraient masquer cette réalité. À l'heure des bourreaux, c'est un mystique de l'islam, ancien chef de guerre en Algérie, qui s'est dressé pour sauver les chrétiens de Syrie. Ne l'oublions jamais. Après cette réflexion sur la séquence 1840-1860, je voudrais, dans le temps qui me reste, et avant qu'on passe à un échange que je ne doute pas nourri avec la salle, évoquer Charles de Gaulle. Car qu'est-ce qu'on ne lui fait pas dire à Charles de Gaulle sur cette région, entre autres. Mais pour évoquer Charles de Gaulle et son Orient compliqué qu'on met là aussi à toutes les sauces, il faut quand même rappeler comment la France va s'attribuer les destinées de la Syrie à l'issue du premier conflit mondial. Comment, très rapidement, elle va trahir les espoirs de ces Arabes qui se sont alliés avec elle et avec la Grande-Bretagne au cours de ce qu'on appelle injustement la révolte arabe, alors qu'en arabe, cette révolte, Saoura, est une révolution. Comment le retrait des États-Unis hors de la Société des Nations va laisser les mains libres à la France et à la Grande-Bretagne pour imposer une vision des mandats aux antipodes du droit des peuples à l'autodétermination qui était si cher au président Wilson. Et comment cette négation du droit du peuple syrien à l'autodétermination va s'incarner dans le mandat français sur le Liban et sur la Syrie. Comment la France, tout à sa rage de se débarrasser d'une Syrie qu'elle voit comme hostile parce que nationaliste, va découper la Syrie, la charcuter littéralement. Donc, inutile de prétendre découvrir l'eau chaude en disant « si on fait des cantons pour telle ou telle population, ça ira beaucoup mieux ». La France l'a fait. Elle était quand même une des puissances du moment à l'époque. Et ça lui a littéralement explosé à la figure au bout de seulement quelques années. Parce que ça ne marche pas, les cantons. Pourtant, la France y était allée sans réserve. D'abord, elle avait défini les frontières d'un grand Liban, bien au-delà de la réalité historique du Mont Liban et de Beyrouth. Mais à l'intérieur même de la Syrie, déjà elle avait créé un État, à chaque fois un État, avec ce que ça implique, un État à Damas, un État à Alep. Elle avait créé un État pour les Druzes, pensant sans doute ainsi les détourner de leurs amitiés britanniques. Et puis, elle avait inventé un État des Alaouites, en pensant ainsi s'allier cette minorité de l'islam, montagnarde, donc avec toute une série chez des administrateurs souvent formés au Maroc d'assimilation, avec les gentils kabyles que l'on peut détourner contre les méchants arabes des villes, et faire la même chose ainsi avec les Alaouites. Donc on crée un État alaouite. Et puis, comme si ce n'était pas assez, on fait une autonomie autour d'Antioche. Alors on appelle ça le Sanjak, c'est-à-dire la province d'Alexandrette. Donc du coup, on oublie que c'est Antioche. Mais c'est quand même d'Antioche qu'il s'agit, comme si Antioche n'était pas, comme je l'ai rappelé d'entrée de jeu, à la Syrie de tout temps. Et puis, évidemment, différentes autonomies dans des territoires qui n'ont pas encore été complètement explorés, mais dont on sait qu'ils sont à majorité kurdes, donc entre la Turquie et l'Irak actuel. Eh bien, tout ça va exploser au sens propre en 1925, et la grande révolte, en fait là encore révolution de la Syrie de ce moment-là, elle va éclater justement dans un de ces États que la France avait créé de toutes pièces pour s'amalgamer une minorité. Ce qui prouve que ça ne marche pas et que ça n'a jamais marché, que ça ne pourra jamais marcher. Ce sont les Druzes qui vont lever les premiers l'étendard de la révolte. Donc évidemment, les Français vont essayer de caricaturer cette révolution en soulèvement druze. C'est d'ailleurs encore ce qu'on retrouve, y compris dans des ouvrages publiés il y a encore cette année. Alors que c'est un soulèvement nationaliste caractérisé qui va voir la mise en place d'un Conseil national de la Révolution qui veut une Syrie unique, reconnaissant les droits des minorités, envisageant peut-être une structure fédérale, mais où il y a de toute façon une égalité des droits pour tous les citoyens. Donc au lieu d'entendre ce message, la France, ce n'est plus la France qui a créé le Mont Liban sur fond de Chambre Bleue Horizon, c'est la France du cartel des gauches, c'est Maurice Sarrail, franc-maçon déclaré, qui est général à Beyrouth, et on voit que aussi bien les pourfendeurs d'infâmes que les amis des minorités, ben à la fin, c'est toujours le canon qu'ils utilisent, avec les effets que l'on sait. Et malgré le tollé international, les consuls en poste à Damas écrivent à la puissance occupante que si la population de Damas ne les avait pas protégés, eux, et n'avait pas protégé, je cite de mémoire, les chrétiens et israélites, eh bien ce n'étaient pas les Français qui les auraient protégés avec leur bombardement aveugle. Ces bombardements de 1925 ont d'ailleurs donné son nom à un quartier de la ville de Damas qui s'appelle Harika, l'incendie, tant l'incendie avait été violent et le nombre de victimes sans doute autour du millier. Donc cette révolution, ce soulèvement va être écrasé en 1926. La France va faire revenir des renforts du Maroc où elle a justement, elle en a fini avec le soulèvement d'Abdelkrim peu avant. Donc on va avoir effectivement une victoire militaire. La victoire militaire en 1926, comme aujourd'hui, ne résout absolument rien. Vu que les Français vont essayer de faire voter leur Syrie, la Syrie qu'ils contrôlent, bourrant les urnes aux besoins, et qu'à chaque fois, malgré tout, les Syriens redisent la même chose. Ils veulent être un pays indépendant et uni. Et ils mettront de plus en plus en avant un drapeau à 3 étoiles, Damas, Alep et toute autre ville qui veut se joindre à une Syrie unie, drapeau qui sera repris par les révolutionnaires contre Assad. C'est dans ce contexte que Charles de Gaulle va servir en 1929-1931 à l'état-major de l'armée du Levant. Il est basé à Beyrouth, mais il mène de nombreuses missions dans les villes syriennes de Damas, de Homs, de Hama, d'Alep ou de Palmyre. Il participe aussi en juin 1930, à l'expédition de pacification du Bec de Canard, donc cette pointe de l'extrême nord-est de la Syrie, à la population majoritairement kurde. Le chef de bataillon de Gaulle écrit alors à son père son émotion d'avoir été un des premiers militaires français à atteindre le Tigre. En avril 1941, le chef de la France libre se rend au Caire, où il a nommé Georges Catroux délégué général de la France libre pour le Moyen-Orient. Catroux a déjà servi à 2 reprises au Levant, en 1920-1922, puis en 1926-1927, il a noué en Égypte des relations de confiance avec les autorités britanniques. De Gaulle ouvre avec cet épisode le chapitre « L'Orient » du premier tome de ses mémoires de guerre. La phrase d'introduction en est restée fameuse. « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Rarement citation du général aura été reprise dans une telle incompréhension de son contexte. Lisons en effet la suite. Je cite. « Je savais que, au milieu de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait, il fallait donc en être. » Fin de la citation. C'est la partie essentielle en cours en Orient qui contraint à avancer des idées simples pour mieux y combattre Vichy. Une victoire de la France libre au Levant est indispensable afin d'associer la France libre à la bataille de la Méditerranée et donc à la libération du territoire national. De Gaulle conclut d'ailleurs son paragraphe par cette déclaration vibrante « Le devoir était d'agir là comme ailleurs, au lieu et place de ceux qui ne le faisaient pas. » L'Orient compliqué de Gaulle n'est donc pas, contrairement à ce que prétendent des épigones paresseux, l'Orient des Orientaux eux-mêmes. Il est au contraire l'Orient des intrigues occidentales et des conflits franco-français. L'indifférence troublante que professe l'homme du 18 juin envers le sort des populations moyen-orientales va d'ailleurs le conduire à compromettre le crédit de la France en Syrie. Malgré le prestige de Catroux, plus encore que de Gaulle, la majorité de l'armée française au Levant reste fidèle à Vichy. La propagande pétainiste clame, je cite, « Honneur à nos braves soldats de Syrie, car il n'y a pas de place en ce pays pour les traîtres qui colportent la propagande anglaise. » Fin de citation. Les gaullistes n'en accordent que plus de prix au ralliement ponctuel, tel celui du colonel Philibert Collet et de sa centaine de cavaliers tcherkesses. C'est la mise à disposition de l'Allemagne par Vichy des aéroports de Syrie qui précipite l'affrontement. La mi-mai 1941, la Royal Air Force bombarde les aérodromes de Damas et de Palmyre. Le 8 juin, les forces britanniques et les forces françaises libres, donc les FFL, pénètrent en Syrie, ouvrant un mois de conflit d'une grande violence. L'aviation allemande intervient plusieurs fois à partir de l'Irak voisin. Londres mobilise alliés et supplétifs dans cette campagne de Syrie. C'est ainsi que Moshe Dayan, le futur héros d'Israël, s'enrôle dans la 7e division australienne. Victime d'un tir vichysois, il perd son œil gauche. De Gaulle se rend à Damas libéré le 24 juin. Il se contente de considérations générales dans ses entretiens avec les nationalistes locaux. Le cessez-le-feu est conclu entre plénipotentiaires britanniques et pétainistes le 14 juillet 1941 dans la ville palestinienne d'Acre. De Gaulle, furieux d'avoir été exclu de ses pourparlers, surtout un 14 juillet, obtient une convention d'interprétation de l'accord qui reconnaît l'autorité de la France libre. Mais il ne peut empêcher plus de 37 000 militaires français d'être évacués par la mer vers Marseille, alors que seuls 5 000 membres de l'armée du Levant abandonnent Vichy pour intégrer les FFL. De Gaulle retourne en Syrie dans les derniers jours de juillet 1941. Il harangue avec flamme les partisans gaullistes dans la capitale, je cite, « Sur la route cruelle et glorieuse qui mène à la libération de la France, cette réunion ici à Damas des bons Français et des bonnes Françaises que vous êtes est une preuve décisive du fait que l'âme de la France est indivisible. » Fin de la citation. Il renouvelle à l'université de Damas l'engagement à l'indépendance du pays pris par Catroux dès l'ouverture de la campagne de Syrie. De Gaulle diverge pourtant d'avec son délégué général sur la valeur d'un tel engagement. Il est exclu pour le chef de la France libre d'amender l'autorité mandataire tant que le conflit est en cours. Obsédé par l'ingérence britannique, De Gaulle associe trop souvent le nationalisme arabe à de sombres manœuvres de ses alliés. Catroux, installé dans le Grand Sérail de Beyrouth, est en revanche convaincu du caractère inéluctable d'une indépendance effective de la Syrie et du Liban. Son talent et celui de ses collaborateurs lui permettent d'entretenir un flou juridique dont s'accommodent toutes les parties. C'est ainsi que la tournée d'un mois qu'effectue De Gaulle en août et septembre 1942 prend des allures de triomphe en Syrie comme au Liban. De Gaulle traverse Damas aux côtés d'un président de la République, le cher Tajeddin, à l'autorité bien formelle, mais qui a toujours été un fidèle relais de la France depuis le début du mandat. De Gaulle déjeune à l'hôtel Baron d'Alep avec le maire de la ville. Il visite aussi Latakié et Hama. À Souaïda, il ne manque pas de saluer les escadrons de ruse, éléments essentiels de ses troupes spéciales sur lesquelles les gaullistes s'appuient pour tenir le pays. jusqu'à aujourd'hui, enfin, la question se pose moins, vu l'impossibilité d'effectuer du tourisme en Syrie. Dans toutes les villes que j'ai mentionnées, il y avait évidemment plusieurs hôtels, plusieurs maisons où De Gaulle avait dormi. Et on vous montrait d'ailleurs toujours le lit de De Gaulle, en disant, vous voyez comme il est grand, la preuve. La mort de Tajeddine en janvier 1943 ouvre la voie à des élections générales remportées en juillet par les nationalistes syriens. La nouvelle direction à Damas exige des pouvoirs réels. Mais au lieu de traiter avec la Bill Katrou, appelée à Alger pour le gouvernement provisoire, elle se heurte à Jean Heuleux, diplomate de carrière sans lettre de tempérament. Ce délégué général réussit à réaliser contre lui l'unanimité des nationalistes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, libanais ou syriens. À rebours donc de la proclamation du Grand Liban, imposée en 1920 à une Syrie vaincue, l'indépendance du Liban et celle de la Syrie sont donc négociées de concert. La France libre démet Heuleux de ses fonctions et renvoie Katrou pour apaiser la crise. Le général gaulliste signe en décembre 1943 l'acte de transfert aux autorités syriennes et libanaises des pouvoirs détenus en leur nom par la France dans le cadre du mandat. La Syrie et le Liban sont donc désormais, en droit international, des États souverains. Et ils participent à ce titre à la fondation de la Ligue arabe, lancée en octobre 1944 à Alexandrie et officialisée en mars 1945 au Caire. Syrie et Liban y sont d'ailleurs les deux seules républiques, aux côtés des cinq autres membres fondateurs, les monarchies d'Égypte, d'Irak, de Transjordanie, d'Arabie saoudite et du Yémen. De Gaulle, auréolé de la libération du territoire français, continue pourtant de ne voir dans la Ligue arabe qu'une machination anglo-saxonne. Il refuse d'accepter toutes les conséquences de l'indépendance de la Syrie, alors même que le Premier ministre Fares el-Khoury plaide avec éloquence la cause de la jeune République à la conférence fondatrice des Nations Unies en avril 1945 à San Francisco. Le contentieux se cristallise sur le refus de Paris de transférer à Damas l'autorité sur les troupes spéciales. Le fait que ces corps recrutent prioritairement dans les minorités ethniques et confessionnelles, on a vu les Druzes, les Tcherkesses, les Alaouites évidemment, fait craindre le pire au chef du gouvernement, lui-même chrétien, Fares el-Khoury. Le Parlement syrien vote le 13 mai 1945 à l'unanimité une loi, je cite, « préconisant des peines sévères à l'encontre de ceux qui feraient appel à des sentiments religieux, communautaires ou régionaux dans le but de menacer l'unité nationale ». Fin de citation. Un renfort de tirailleurs sénégalais débarque peu après à Beyrouth pour être déployé en Syrie où de graves émeutes éclatent à Homs et à Hama. Le 29 mai 1945, un détachement de ces tirailleurs veut contraindre la police en faction devant le Parlement syrien de saluer le drapeau tricolore. Le refus tout à fait prévisible déclenche l'assaut français du Parlement, puis un bombardement par l'artillerie et même par l'aviation de nombreux bâtiments officiels. Ce pilonnage se poursuit durant 2 jours et fait plusieurs centaines de morts à Damas. Winston Churchill, Premier ministre britannique, est pleinement soutenu par le président Franklin Roosevelt pour contraindre la France à cesser les hostilités. De Gaulle accuse publiquement Churchill d'avoir envisagé, je cite, « une collision entre les troupes françaises et les troupes britanniques sur le terrain ». Toujours le choix des termes gaullistes, hein. Collision. Il reconnaît de mauvaise grâce avoir à Damas employé le canon et même un avion. Au lieu d'un départ négocié de Syrie, les troupes françaises sont contraintes à un retrait inconditionnel, achevé le 17 avril 1946. Cette date est désormais célébrée en Syrie comme la fête de l'évacuation, à Eid el-Jalla. De Gaulle, qui a quitté le pouvoir en janvier 1946, n'est à l'évidence pas conscient qu'il a sabordé la position dominante de la France en Syrie. Ce sont désormais les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne qui pèsent dans les luttes d'influence à Damas. L'expédition de Suez, où la France s'allie en 1956 à Israël et au Royaume-Uni contre l'Égypte de Nasser, provoque des émeutes anti-françaises dans toute la Syrie. Les relations diplomatiques entre Paris et Damas, rompues à cette occasion, ne sont renouées qu'après l'indépendance de l'Algérie en 1962. C'est un nouveau De Gaulle qui émerge alors aux yeux des dirigeants et des opinions arabes. Sa popularité croissante vaut autant pour ce qu'il incarne effectivement que pour ce à quoi il paraît s'opposer, les errements français de Suez et l'alignement des États-Unis sur Israël. La guerre de juin 1967 a beau être gagnée par Israël contre ses voisins coalisés avec des armements français, on ne retient que l'exigence exprimée par De Gaulle d'un retrait des territoires occupés lors du conflit. Ceci vaut entre autres pour le plateau du Golan, véritable Alsace-Lorraine de l'opinion syrienne. L'exaltation d'un De Gaulle ami des Arabes efface alors le souvenir des bombardements de 1945 sur Damas. J'aurais pu évoquer, mais j'arrive à la fin de cette présentation, d'autres présidents, François Mitterrand, bien sûr, avec la guerre des ombres qu'a menée contre lui et contre la France la Syrie de Hafez el-Assad, Jacques Chirac et ses emballements, à la fois pro puis anti, avec toujours la même fougue et en même temps les mêmes liens privilégiés avec la famille Hariri, dont on connaît les mésaventures récentes entre Beyrouth et Riyad. Évoquer Nicolas Sarkozy, évoquer François Hollande, c'est un cours d'histoire s'interdirait d'évoquer l'actuel locataire de l'Élysée, qui d'ailleurs pour l'instant n'a fait que poursuivre, malgré les aggiornamenti annoncés, la politique de son prédécesseur, ce qui au fond n'est pas plus mal. Mais je voudrais en conclusion revenir à ceux à qui j'ai dédié mon miroir de Damas. Les disparus. Quand j'étais délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban, j'ai rédigé le premier rapport sur la situation des disparus. En fait, en arabe, on se part moins de précautions, on dit les martoufines, les enlever, les kidnapper. Les disparus sont toujours enlevés et kidnappés, même s'ils ont disparu. Et c'était déjà une douleur terrible à l'intérieur de la douleur de la guerre civile libanaise. C'est donc le premier rapport sur ce sujet. J'avais pu le présenter au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 1984. Et déjà, la blessure était ouverte au Liban. Mais une fois de plus en Syrie, l'horreur a atteint de nouveaux niveaux. Les disparus, combien seraient-ils en Syrie? Combien seraient-ils? Certainement des milliers, probablement des dizaines de milliers. Et là encore, les disparus, il y en a dans tous les camps, du fait de toutes les milices, voire des services dits de sécurité, voire des forces étrangères qui interviennent en Syrie, et elles sont nombreuses. Et parmi tous ces disparus, je voulais, dans la dédicace de mon livre, en distinguer deux. Une Syrienne et un non-Syrien. Une Syrienne, Razan Zeitouné, et un Italien, Paolo Dell'Olio. Razan Zeitouné a été une infatigable défenseuse des droits de l'homme et elle a disparu avec trois de ses camarades dans une banlieue de Damas qu'on appelle la Route, hein, dans un quartier assiégé qu'elle aurait pu quitter, mais où elle avait décidé de vivre aux côtés des habitants. Je signale un remarquable essai qui a été consacré à Razan Zeitouné par Justine Augier, qui a reçu très légitimement le prix Renaudot Essai, et qui justement rend hommage à cette figure et à travers elle à ce qui était la révolution syrienne, hein, dans son aspect citoyen, et en même temps révolutionnaire et intransigeant contre le régime en place d'Assad. Et puis l'autre disparu, Paolo Dell'Olio, jésuite italien, parfait arabisant, que j'avais rencontré pour la première fois dans le monastère Moussa el-Habashi de Moïse l'Éthiopien, qu'il avait réhabilité à une dizaine de kilomètres à l'est de Nebek, donc en bordure du désert de la Palmyrienne. Et c'est à Raqqa, en juillet 2013, que Paolo Dell'Olio a disparu, sans doute aux mains de Daesh, sans qu'on ait là-dessus la moindre certitude. Et je voudrais à la fois conclure par un hommage vibrant à ces disparus et tout spécialement à ces deux personnes, personnalités, citer en fin de cette conférence Paolo Dell'Olio lui-même, disant « La Syrie est et restera synonyme de résurrection ». Merci à vous.
Merci Jean-Pierre pour cette conclusion émouvante et cet excellent exposé. Je crois qu'on peut être hostile ou favorable au général de Gaulle, mais on peut considérer qu'il reste un très grand écrivain. Et donc je me permettrai, parce que ça va dans ton propos, de citer un petit extrait de sa conférence de presse du 2 juin 1945. « La Syrie est une vieille chose, c'est une entité antique, aussi respectable, aussi vieille que le monde, et dont on entend parler depuis l'aurore des temps historiques. Dans l'Orient, dont fait partie la Syrie, on se trouve en présence d'un ensemble de populations généralement arabes qui, avec le caractère très généreux, très remuant, très mobile de leur population, ont toujours constitué pour le monde un problème particulièrement délicat. » Quel admirable styliste! On n'a pas d'homme politique aujourd'hui qui savent aussi bien s'exprimer dans la langue française. Alors on sent ton amour pour la Syrie qui est bien partagé par d'autres. Ici, en même temps, il faut reconnaître que nous connaissons très mal l'histoire longue de la Syrie, tout simplement par manque de travaux scientifiques. Il nous manque par exemple une histoire écologique de cette région du monde et pourtant elle est absolument essentielle parce que les variations écologiques dans cette région du monde provoquent des variations de population beaucoup plus considérables que celles que nous pouvons avoir en Europe. Ceci est un appel à de futures vocations éventuelles. On oublie toujours, enfin, par exemple, je prends un simple exemple, on nous parle à juste titre de la grande peste qui, en Europe, a tué au moins un tiers de la population. Mais on oublie qu'elle a frappé le monde musulman et que des pays comme la Syrie et l'Égypte ont eu des pertes équivalentes à la grande peste du 14e, enfin en même temps que l'Europe. Et donc les effets de la grande peste ont modifié des équilibres écologiques et humains de la Syrie comme de l'Égypte d'ailleurs, ce qui rend d'ailleurs très compliqué ensuite l'idée qu'il puisse y avoir des permanences de population sur des lieux. Et ceci est évidemment une chose importante. Alors tu as évoqué, j'avais jadis travaillé sur cette question, la fameuse affaire de Damas de 1840 qui avait d'ailleurs passionné l'opinion publique européenne, et ça avait été justement au départ, à mon avis, en tout cas un coup de la montée en puissance des Grecs catholiques qui depuis à peu près un siècle éliminaient systématiquement les Juifs de toutes les positions dans les finances régionales, aussi bien en Égypte, en Palestine qu'en Syrie. Mais là, on est en effet dans les enchevêtrements des protections consulaires, parce que les Juifs de Damas sont protégés par les Autrichiens, tandis que les Grecs catholiques sont protégés par les Français. Et puis, on a eu là un cas typique d'obstination stupide de l'administration française qui, tout en sachant plus ou moins pertinemment qu'elle est complètement dans son tort, s'enferme dans un déni de réalité. Et il faut rappeler qu'à cette occasion, les Juifs européens s'étaient mobilisés, enfin, d'Europe de l'Ouest s'étaient mobilisés, et donc l'Anglais Montefiore et le Français, Crémieux, Adolphe Crémieux, était parti en mission pour mobiliser à la fois l'opinion publique internationale et libérer les Juifs de Damas. Et c'est plus ou moins à partir de là que 20 ans après sera créée l'Alliance israélite universelle en 1860. Alors reste cette affaire des crimes rituels, et je crois qu'il y a toujours un contresens quand on dit que c'est les Russes. Non, c'est le contraire. Je pense que la notion de crime rituel a été restée profondément ancrée dans le christianisme oriental de la Méditerranée. Et puisque au XIXe siècle, les principales accusations de crimes rituels sont justement en Méditerranée orientale, à Alexandrie, à Damas, etc. Et c'est en remontant par la mer Noire, parce qu'il faut rappeler une chose qu'on oublie toujours, c'est qu'Odessa, en mer Noire, est une ville grecque, jusqu'à la Révolution russe, pratiquement, jusqu'à 1914. C'est via Odessa que l'antisémitisme chrétien oriental est passé à la Russie. Enfin, et on le voit très bien, puisque les premiers pogroms dans l'Empire russe, c'est à Odessa, avant que ce soit dans le reste de la Russie. Mais il faudrait une étude plus détaillée et très slavisant pour continuer ce travail. Ce n'est que là aussi qu'une piste. Alors, je terminerai parce que l'intérêt ou l'ennui d'être professeur au Collège de France, c'est qu'on est obligé de travailler. Et il faut faire un cours.
À Paris, Texas aussi.
Oui, mais là, j'étais obligé de travailler sur mon cours là, qui va démarrer cet après-midi. Et je me suis aperçu que j'ai toujours utilisé à tort un terme... Enfin, à tort. Il y a quelques années de cela, j'avais été invité à un colloque à l'université libanaise, secteur chrétien, puisqu'à l'époque, il y avait deux secteurs, sur les minorités dans l'Empire ottoman, donc en arabe al-Kaliyat. Et les organisateurs avaient envoyé une invitation à des universitaires syriens pour venir. Et c'est des années 90, cette histoire. Et les universitaires syriens avaient répondu qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y avait jamais eu d'Akaliyat en Syrie. Mais je me suis aperçu qu'en réalité, le terme minorité n'est absolument pas utilisé avant 1914. Que, évidemment, ce qu'on utilise, c'est la vieille langue arabe, c'est même pas Milet, hein, c'est Taïfa. Taïfa qui est groupe, tout simplement. Puisque Taïfa, ça peut être un groupe confessionnel, ça peut être un groupe ethnique, ça peut être un ordre, enfin une corporation de métier, etc. Et le terme Taïfa est le terme essentiellement utilisé à l'époque ottomane, jusqu'au bout de l'époque ottomane. En fait, et là, c'est mon scoop qui était prévu pour le cours dans quelques semaines, puisque tu es là, tu vas en bénéficier. Le terme Akaliyah apparaît dans le projet de constitution du gouvernement arabe de Damas, rédigé en 1919-1920 par les juristes de l'émir Faisal, puis roi Faisal. Et donc, dans le projet de constitution, il y a à la fois Taïfa et Akaliyah qui est indiqué. Et alors, je me suis interrogé pourquoi en 1920, les juristes qui, autour de Faisal, utilisent le terme Akaliyah. Et j'ai découvert qu'en fait, le terme minorité est apparu dans ce qu'on appelle le petit traité de Versailles, qui est à côté du grand traité. Vous savez, on a le grand traité de Versailles de juin 1919, de mémoire. Dans le cours, vous aurez la date exacte. Donc, ce qu'on appelle le grand traité, ce qui fait. Mais il est accompagné d'un ce qu'on appelle le petit traité, qui est le traité concernant la Pologne, et qui garantit, entre autres, les droits des minorités en Pologne. Et c'est donc au petit traité de Versailles que le terme minorité est créé dans le droit international. Et immédiatement, les juristes de Damas, l'utilisent pour montrer qu'ils sont modernes et qu'ils ne veulent justement pas que les puissances étrangères manipulent les akaliyats en leur donnant le maximum de garanties. Et on voit très progressivement, sous le mandat français, le terme akaliyat remplacé progressivement le terme de taïfa dans la langue administrative, on va dire franco-arabe, et ainsi de les voir arriver, par exemple, en première ligne dans les traités franco-syriens et franco-libanais de 1936. Et c'est ça, encore une fois, combien l'histoire du vocabulaire enrichit notre compréhension des choses. Mais j'ai trop parlé, vous avez la parole, vous, la salle. Jeanne, avec les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, des questions à monsieur.
Monsieur Filliu, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur la situation actuelle en Syrie, s'il vous plaît, si c'est possible.
Ce serait bien qu'il y ait une autre question, parce que sinon je vais aller jusqu'au bout de la séance rien qu'à répondre à celle-là.
Je vous signale que monsieur Filliu tient un blog dans le journal Le Monde, sur le site internet du journal Le Monde, et que dans son blog, il aborde très souvent la question syrienne. Merci.
Comment est-ce que Assad est arrivé au pouvoir ?
Bien. Et une troisième ?
Je pense que ma question est reliée à celle qui vient d'être posée. Après le départ des Français, la Syrie a connu, si mes souvenirs sont bons, toute une série de coups d'État, souvent sanglants, dont le dernier a été effectivement l'arrivée de Assad. Et je pense que ce serait peut-être intéressant de retracer cette série pour arriver à Assad.
Et je crois que M. Mathieu Ré en parlera peut-être la semaine prochaine.
Donc moi, je vais donc répondre très, très rapidement, hein, jusqu'à la fin de la séance, jusqu'à 12h30.
Tarif syndical.
Voilà. Et c'est là où l'histoire nous éclaire sur le présent. C'est que, justement, l'histoire de la Syrie, dans sa durée, dans sa profondeur, dans sa diversité, va absolument à l'encontre des mensonges d'État qui sont relayés parfois consciemment et parfois tout à fait inconsciemment. Je rappelle cette question du drapeau, hein, le drapeau à trois étoiles, qui est le drapeau révolutionnaire. Et la propagande d'Assad a pu marteler et se faire... il y aura un écho à de telles contre-vérités, disant que c'était le drapeau colonial. Or, effectivement, il a été levé pendant l'époque coloniale, mais il était levé par les nationalistes. On arrive ainsi à faire dire aux faits exactement leur contraire. Donc, simplement, là, ça me permet de poursuivre sur De Gaulle, c'est que le vrai coup que porte De Gaulle à la Syrie, ce n'est pas les bombardements, les centaines de morts, quoique avoir fait tout ça en mai 1945, au moment où il se passait ce qui se passait en France, mais aussi à Sétif et à Guelma, ça montre à quel point les valeurs étaient loin d'être universelles. Mais c'est que surtout, ces élites nationalistes, pluralistes, qui vont arriver à l'indépendance, vont y arriver totalement épuisées. Parce que au lieu d'une association avec les Français qui aurait pu déboucher sur une alliance telle que prévue par le traité franco-syrien de 1936, donc œuvre du Front populaire, mais jamais ratifiée par le Parlement français, du fait, entre autres, du refus du lobby colonial. Donc, je suis convaincu que ce qui se joue aujourd'hui en Syrie, comme en 1920, comme en 1945, c'est le droit du peuple syrien à l'autodétermination. Et ce droit du peuple syrien à l'autodétermination, il a été nié par la série de coups d'État que Mathurey décrira pendant la prochaine séance. Et donc, pour faire simple, la résilience du pluralisme et de la diversité en Syrie est tellement forte que, plusieurs fois, un coup d'État doit céder face à une nouvelle expérience parlementaire, quitte à ce qu'on revienne à un coup d'État ensuite. Il faudra aussi 3 années d'occupation égyptienne, de 58 à 61. Donc, pour dire à quel point cette diversité syrienne, elle est enracinée, hein, alors que, bon, ben, Nasser, enfin, les officiers libres en 52, une fois qu'ils ont liquidé la monarchie, ils liquident tout du même coup, hein, le parlementarisme, la vie politique, la vie syndicale, etc. En Syrie, non. Ce pluralisme, il faudra des années. Hein, et la mise en place donc, du système Assad en 1970, c'est assez simple. Comment Assad prend le pouvoir ? Parce qu'il est le pire de tous. Voilà. C'est une logique darwinienne de putsch, où à la fin, celui qui vaincra sera celui qui ne s'interdit rien, hein, ni trahir ses anciens camarades, ni mentir de manière... Hein, et donc, c'est le pire de tous. Et étant le pire de tous, ayant évidemment peur d'autres pires de tous qui pourraient émerger, il considère que la seule façon de maintenir son système, c'est d'en faire une dynastie. Et dans le miroir de Damas, je fais un parallèle entre la mise en place des Omeyyades par la famille qui a le plus lutté contre l'islam et la mise en place d'une dynastie, de la dynastie Assad, hein, la Syrie des Assad maintenant, hein, Assad pour l'éternité, etc. etc. hein, donc on est quand même... Moi j'ai même entendu dans des meetings à Damas, quand on disait Assad pour l'éternité, il y avait quand même des gens qui hurlaient, et même après. Donc on en est là. Mais au fond, ce système Assad, il ne peut perdurer que par la négation permanente et constante du peuple syrien, donc par une forme particulièrement perverse d'internationalisation. Donc le vrai drame de la Syrie, c'est en fait la façon dont cette crise a été internationalisée au lieu d'être gérée comme un conflit syrien visant à la mise en place du droit à l'autodétermination. Et en fait, tout le système Assad, hein, a développé toute une série de couches de relations internationales qui nient le peuple syrien, qui fait que le sort du peuple syrien ne l'intéresse plus, hein, que c'est, alors dans les années 70, c'était la confrontation avec Israël, et puis après c'était l'alliance avec l'Iran, puis après c'était le fait qu'il était le meilleur allié des soviétiques, et puis on voit comment à chaque fois, il faut jamais oublier que pendant très longtemps, un des éléments essentiels de la stabilité du régime Assad, c'était une alliance de fait avec la Turquie d'Erdogan, hein. Avec ouverture des frontières en 2007, etc. Donc, l'important, c'est que le système, pour le système, hein, évidemment, ce qui arrive au peuple syrien, le système, Nizam en arabe, c'est système et c'est régime. Le Nizam système s'en moque absolument. C'est pour ça que ceux qui croient qu'on va amener Assad à des concessions en lui promettant de l'argent pour la reconstruction... Mais pourquoi va-t-il reconstruire s'il doit faire des concessions alors qu'il a détruit tout ce qu'il a détruit pour n'en faire aucune, hein ? Je me rappelle, son père, dans les années 90, les émissaires européens s'arrachaient les cheveux parce qu'ils disaient « Mais vous rendez compte tous les crédits qu'on lui propose ?» Et il ne veut pas signer l'accord d'association. Je dis « Il ne le signera jamais, il y a écrit là, coopération avec la société civile. » Il ne veut pas. Et en plus, vous voulez dépenser cet argent, vous, alors qu'il veut que cet argent lui arrive à lui. Donc cet argent qu'il pourrait ne pas contrôler et qui pourrait aider d'autres que lui dans le pays, il n'en veut pas. Et demain, il ne voudra pas la reconstruction. Hein ? Donc, La situation actuelle, c'est que jamais la négation du droit du peuple syrien à l'autodétermination n'a atteint une telle cruauté, une telle perversité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le monde entier a abandonné la Syrie. Non, s'il l'avait vraiment abandonnée. Non, il n'arrête pas de s'occuper d'elle, mais de la pire et la plus perverse façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Syriens maîtres de leur destin. Même le régime Assad, hein, il peut dire non, mais il ne peut plus décider. Ceux qui décident, ce sont ses parrains à Moscou et à Téhéran, ce n'est plus lui. Hein. Demain, la paix et la guerre entre la Syrie et Israël, ce n'est plus Assad qui peut décider. Ce sera décidé par le Hezbollah, par les gardiens de la Révolution, etc. Bon, moi, que le régime Assad ne soit plus maître de son propre destin, ce n'est pas forcément cela qui va me chagriner, mais sauf que c'est ce qui émerge de cette internationalisation qu'on a laissé faire parce que personne ne l'a assumé, sauf deux puissances qui, elles, ont absolument assumé leur internationalisation, c'est l'Iran et la Syrie, et la Russie. Hein. L'Iran d'emblée, hein, donc pour là, si on prend le temps long, il faut savoir qu'aujourd'hui, les Iraniens à Alep, hein, faut revenir au VIe siècle. Hein. Ce n'est pas un rétablissement d'une puissance régionale, c'est quelque chose de nouveau. Et puis la Russie qui a absolument assumé son soutien à Assad. Et en face, les autres partenaires internationaux, en fait, personne d'entre eux ne s'est donné les moyens d'obtenir satisfaction. Hein. Là, la dernière rencontre russo-américaine, les Américains, comme ils ne veulent pas s'occuper de la Syrie, ils ont accepté de signer un texte commun où ils reconnaissent que la Russie lutte contre Daesh. Vous avouerez que c'est relativement récent, puis ça a été quand même pas la priorité de leur engagement en Syrie. Où ils reconnaissent que la Russie bride les interventions de l'Iran en Syrie, ce qui est absolument faux, et que la Russie veut œuvrer avec les États-Unis à une forme de solution politique. Bon, que veut la Russie ? C'est son rêve. Hein. Ils espéraient le faire à Sotchi, sur le bord de la mer Noire. C'est ramener Assad, l'opposition de sa majesté, les Kurdes qui contrôlent maintenant le nord-est du pays, et puis faire un accord de type fédéral, hein, avec toutes ses parties, chacun se chargeant dans sa zone d'écraser l'opposition. Hein, d'accord ? Ça, c'est la vision russe. Hein, et la pente lourde de la communauté internationale va vers ça. Que ces Syriens arrêtent de nous ennuyer, de nous embêter avec leurs droits, leur démocratie, leurs revendications, leur pluralisme. Et on voit bien qu'on les dépossède jusque dans les détails. Hein. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur maison. Ils ne peuvent plus avoir un travail, ils ne peuvent plus, bon, lisez les reportages tout à fait à fendre le cœur du monde à Damas, en zone gouvernementale, où soi-disant, tout le monde a gagné, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les réfugiés, ils partent des zones gouvernementales, parce qu'il n'y a plus aucun avenir dans les zones gouvernementales non plus. Hein. Donc, ce qui est terrible, c'est que la Syrie d'en bas, elle est toujours là. Et ce qu'il faut à tout prix, c'est que cette Syrie d'en bas réapparaisse, non pas par romantisme ou autre, mais parce que c'est la seule clé de la stabilisation. Aucun ordre imposé de l'étranger, y compris par les coalitions, y compris par les contingents des uns et des autres, ne peut perdurer. Cet ordre doit être légitime et s'asseoir sur une légitimité populaire. Hein. Donc, on pourrait imaginer que la coalition, plutôt que de dire Daesh, Daesh, on a gagné, on a gagné, on a gagné, disent, bah, après tout, on vient de créer ce que l'opposition syrienne demandait depuis le début, c'est-à-dire une zone d'interdiction aérienne, sous protection de la coalition.
Et dit à ce moment-là, dans cette zone, eh bien, on va avoir vraiment des élections, pas des histoires PKK, Nuit debout, consociationalisme, Ocalan, où en fait, on change juste de portrait. Hein. Au lieu de mettre Bachar el-Assad, on met le portrait d'Ocalan. Et puis on a au lieu d'avoir une police politique bassiste, on a une police politique kurde. Mais enfin, le résultat est exactement pareil. Et la liberté d'expression, elle est tout aussi niée. À ce moment-là, on pourrait imaginer, je ne crois pas du tout que ce soit la voie dans laquelle on va, ce qui implique malheureusement de nouvelles souffrances pour le peuple syrien. Mais ne nous y trompons pas. Les mêmes causes produisent implacablement les mêmes effets. Si les populations dans lesquelles a émergé Daesh continuent d'être traitées de manière aussi barbare, ce n'est qu'une question de temps pour que le monstre en question émerge de nouveau, avec évidemment la grande satisfaction du régime Assad, qui à ce moment-là pourra retrouver une nouvelle dynamique dans la lutte contre ce monstre. Donc il n'y a toujours pas en Syrie d'alternative à la démocratie. Merci.